Chapitre 7. Burik. Dame Patience, qui fut la reine du roi servant chevalerie, était originaire de l'intérieur. Ses parents, le seigneur Quercy Combe et Dame Averia, appartenaient à la très petite noblesse, et voir leur fille épouser un prince du royaume dut être un choc pour eux, considérant surtout son caractère indocile, voire borné, selon certains. L'ambition avouée de chevalerie d'épouser Dame Patience fut la cause de son premier différend avec son père, le roi subtil. Cette union ne rapportait ni alliance profitable, ni avantage politique. Seulement, une femme excessivement excentrique, dont le grand amour qu'elle avait pour son époux, ne l'empêchait pas d'affirmer hautement des opinions impopulaires. Pas plus qu'il ne la dissuadait de se plonger corps et âme dans n'importe quelle occupation qui captait sa capricieuse fantaisie. Ses parents la précédèrent dans la mort l'année de la peste sanguine, et elle était sans enfant et présumée stérile quand son époux se tua en tombant de cheval. Je me réveillais, ou plutôt, je revins à moi. J'étais dans mon lit, dans un nid chaud et tendre. Sans bouger, je cherchais la douleur en moi. Ma tête ne me faisait plus mal, mais je me sentais fatigué et dolent, courbattu, comme on l'est parfois après la souffrance. Un frisson me remonta le long de l'échine. Molly était étendue nue près de moi, et son haleine m'effleurait l'épaule. Le feu presque éteint brasillait à peine. Je tendis l'oreille. Il devait être très tard, ou très tôt, car le château était plongé dans un silence presque total. Je n'avais aucun souvenir d'être rentré chez moi. Un nouveau frisson me parcourut, et à côté de moi, Molly s'éveilla. Elle se rapprocha de moi, sourit d'un air ensommeillé. « Tu es très bizarre par moments, » murmura-t-elle, « mais je t'aime. » Elle referma les yeux. « Œil de nuit, je suis là, comme toujours. » Soudain, quelque chose m'empêcha de poser des questions. Je ne voulais rien savoir. Je restais allongé sans bouger, nauséeux, triste, apitoyé par mon sort. J'ai essayé de te réveiller, mais tu n'étais pas prêt à revenir. Le vieil autre t'a vidé. Le vieil autre, en question, est notre roi. Ton roi. Les loups n'ont pas de roi. Qu'est-ce que tu... Je m'interrompis. Merci d'avoir veillé sur moi. Il avait senti mes arrière-pensées. Qu'aurais-je dû faire? La renvoyer? Elle pleurait. Je ne sais pas. N'en parlons pas. Molly avait du chagrin, et il l'avait consolée. Je ne savais même pas pourquoi elle était triste, ou plutôt avait été triste, me repris-je en contemplant le doux sourire de son visage endormi. Je soupirais. Mieux valait me jeter à l'eau tout de suite que plus tard. En outre, il fallait qu'elle retourne dans sa chambre. Il serait malvenu qu'elle se trouve encore chez moi à l'éveil du château. « Molly ?» fis-je doucement. Elle remua, ouvrit les yeux. « Fitz, » répondit-elle d'une voix endormie, « il faut que tu rentres chez toi, pour ta sécurité. »« Je sais. Je n'aurais pas dû venir. » Elle se tut un instant. « Tout ce que je t'ai dit il y a quelques jours, je ne... » Je plaçai mon index sur ses lèvres. Elle sourit. « Grâce à toi, ces nouveaux silences sont... très intéressant. » Elle écarta ma main et l'embrassa passionnément, puis sortit de mon lit et commença de s'habiller à gestes vifs. Je me levai à mon tour plus lentement. Elle me jeta un coup d'œil amoureux par-dessus l'épaule. « Je vais y aller seul, c'est plus sûr. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. » Un jour, Sana, elle me fit taire en posant sa petite main sur ma bouche. « Ne parlons pas de ça pour l'instant. » Que cette soirée reste telle qu'elle est, parfaite. Elle m'embrassa encore une fois, rapidement, puis s'échappa de mes bras et sortit. Elle referma sans bruit la porte derrière elle. Parfaite. J'achevais de me vêtir et rajoutais du bois sur le feu, puis je m'assis dans mon fauteuil au coin de la cheminée. Je n'eus pas longtemps à attendre avant que la porte du domaine d'Imbre s'ouvrit, et je montai l'escalier aussi vite que possible. Imbre était lui aussi installé devant sa cheminée. « Vous devez m'écouter, » dis-je, en guise de salut, et au ton de ma voix, il leva les sourcils d'un air inquiet. Sur un geste de lui, je pris place dans le fauteuil en face du sien et m'apprêtai à parler. Mais ce qu'il fit alors me donna la chair de poule. Il jeta des coups d'œil autour de lui, comme si nous nous trouvions au milieu d'une vaste foule. Puis, il porta un doigt à ses lèvres et me fit signe de parler bas. Enfin, il se pencha vers moi au point que nos fronts se touchèrent.
« Doucement, doucement, assieds-toi. Qu'y a-t-il ? »
Je m'installai à ma place familière sur l'âtre, le cœur battant. Je n'aurais jamais cru devoir user de précaution pour parler chez Imbre.
« Très bien, »
souffla-t-il.
« Raconte-moi. »
Je pris mon inspiration et me lançai. Je lui révélai tout, y compris mon lien avec vérité, afin que mon récit soit compréhensible. Je n'omis aucun détail. La rossée du fou, le cadeau de Kétriken à Béarn, ma visite au roi, celle de Seren et Justin chez moi. Quand je parlais des espions de Royal, il pinça les lèvres, mais ne parut pas exagérément surpris. Lorsque j'eus fini, il me regarda calmement.
« Et quelle conclusion tires-tu de tout cela ? »
murmura-t-il. Comme s'il s'agissait d'une énigme qu'il m'aurait donnée à résoudre à titre d'exercice. Puis-je exprimer franchement mes soupçons ? Demandai-je à mi-voix. Il hocha la tête et je poussai un soupir de soulagement. À mesure que je décrivais l'image que je m'étais peu à peu formée au cours des semaines écoulées, je sentais un grand poids me quitter. Imbre, lui, saurait que faire. Aussi, je lui fis mon rapport rapidement, avec concision. Royal savait que le roi se mourait de maladie. Il se servait de Murfès pour fournir sans cesse des calmants à Subtil et le maintenir ainsi dans un état réceptif à ses murmures. Il cherchait à discréditer vérité. Il voulait dépouiller Castelcerf de la moindre parcelle de richesse. Il désirait abandonner Béarn aux pirates rouges afin de les occuper pendant qu'il travaillerait à ses propres ambitions, c'est-à-dire dépeindre Kétriken comme une étrangère qui avait des vues sur le trône, comme une épouse retorse et infidèle, accumuler du pouvoir personnel, tout cela comme toujours pour s'emparer de la couronne, ou du moins de la plus grande partie possible des six duchés, d'où les somptueuses réceptions qu'il donnait en l'honneur des ducs de l'intérieur et leurs nobles. À regret, Imbre hochait la tête à mes propos. Quand je me tus, il dit à mi-voix,
« Il y a de nombreux trous dans la toile que Royal tisse, d'après toi. »
« Je puis en combler certains, » répondis-je sur le même ton. Imaginons que le clan créé par Galen soit fidèle à Royal. Imaginons que tous les messages reçus transitent d'abord par lui et que seul arrive à destination ceux qui l'approuvent. Le visage d'Imbre devint un masque grave. Mes murmures se firent plus intenses, et s'il retardait les messages juste assez longtemps pour réduire à néant nos efforts pour nous défendre. Il ferait passer vérité pour un incapable. Il saperait la confiance du peuple dans le roi servant.
Vérité, ne s'en rendrait-il pas compte ?
Je secouai lentement la tête. C'est un puissant artiseur, mais il ne peut pas écouter partout à la fois. La force de son talent, c'est sa capacité à le concentrer à l'extrême, pour espionner son propre clan. Il devrait renoncer à surveiller les eaux côtières.
Est-il ? Entend-il notre discussion ?
Je haussai les épaules avec honte. Je l'ignore. C'est la malédiction de mon art défectueux. Mon lien avec lui est erratique. Parfois, je perçois ce qu'il pense aussi clairement que s'il se tenait à côté de moi et me le disait de vive voix. En d'autres moments, c'est à peine si je sens sa présence. Hier soir, alors qu'il parlait à travers moi, j'entendais le moindre mot échangé, mais maintenant. Je tâtonnais au fond de moi comme on tâte ses poches. Tout ce que je sens, c'est que nous sommes toujours reliés. Je me penchai en avant et me pris la tête entre les mains. J'étais épuisé.
« Du thé ?»
me demanda Imbre avec douceur. « Oui, je vous prie, et permettez-moi de garder le silence un petit moment, s'il vous plaît. J'ai rarement eu aussi mal à la tête. » Humbre accrocha la bouilloire au-dessus du feu. Les yeux douloureux, je l'observais qui mélangeait des herbes, un peu d'écorce elfique, beaucoup moins que je n'en aurais demandé plus tôt. Des feuilles de menthe poivrée et de cater, une pincée de précieux gingembre. J'y reconnus la plupart des ingrédients de l'infusion qu'il donnait à Vérité pour combattre l'épuisement que lui causait l'art. Il revint s'asseoir auprès de moi.
« C'est impossible. Ton hypothèse exigerait une loyauté aveugle du clan à Royal. »
Elle peut être imposée par un artiseur puissant. Mon défaut provient de ce que m'a fait Galen. Et vous rappelez-vous son admiration fanatique pour chevalerie? Eh bien, c'était une fidélité artificielle. Galen aurait pu leur en imposer une similaire avant de mourir, alors qu'il achevait leur formation.
Humbre secoua lentement la tête. « Crois-tu, Royal stupide, au point de s'imaginer que les pirates rouges s'en tiendraient à Béarn ? Ils convoiteraient bientôt Serre, puis Ripon et Orfon. Que lui resterait-il ? »
Les duchés de l'intérieur, les seuls auxquels il s'intéresse, les seuls pour lesquels il ressente de la loyauté. Cela lui laisserait un vaste périmètre de terrain pour l'isoler des pirates rouges. Et comme vous, il pense peut-être qu'il ne cherche pas des terres, mais des terrains de pillage. Ce sont des marins. Ils ne s'aventureront pas assez dans l'intérieur pour le gêner. Quant aux duchés côtiers, ils seront trop occupés à combattre les pirates pour se retourner contre Royal.
Si le royaume perd ses côtes, il perd son commerce et son transport de marchandises. Cela va-t-il plaire au duc de l'intérieur, à ton avis ?
Je haussai les épaules. Je n'en sais rien. Je ne connais pas toutes les réponses, Humbre. Mais c'est la seule théorie que j'ai pu concocter dans laquelle presque tous les éléments trouvent leur place. Il se leva pour prendre une théière brune et ventrue qu'il rinça bien à l'eau bouillante avant d'y déposer le sachet d'herbe mélangée sur lequel il versa l'eau de la bouilloire. Une fragrance de jardin envahit ses appartements. Je pris cette image du vieil homme qui remettait le couvercle sur la théière, l'enveloppait dans l'instant simple et chaleureux où il plaça le récipient sur le plateau avec quelques tasses et la rangeait soigneusement quelque part dans mon cœur. La vieillesse gagnait peu à peu Humbre, aussi certainement que la maladie dévorait Subtil. Ses gestes n'étaient plus aussi sûrs, ses réactions de rapace plus aussi vives qu'autrefois. Cet aperçu de l'inévitable me serra soudain le cœur. Comme il déposait une tasse de thé fumant dans ma main, il fronça les sourcils devant mon expression.
« Qu'y a-t-il » murmura-t-il. « Tu veux du miel dans ton thé ?»
Je fis non de la tête, pris une gorgée du breuvage et faillis me brûler la langue. Un goût plaisant atténuait l'amertume de l'écorce elfique. Au bout de quelques instants, je sentis mon esprit s'éclaircir, et une douleur dont j'avais à peine conscience se calmer. « Ça va beaucoup mieux. » Je soupirai d'aise, et Humbre esquissa une révérence, content de lui-même. Il se rapprocha de moi.
« N'empêche que ta théorie est très réfutable. Peut-être avons-nous simplement affaire à un prince qui ne sait rien se refuser et qui s'amuse à recevoir ses flagorneurs en l'absence de l'héritier. Il néglige de protéger ses côtes parce qu'il manque de clairvoyance et qu'il compte sur son frère, une fois qu'il sera rentré pour remettre de l'ordre dans sa pagaille. Il pille le trésor et brade chevaux et troupeaux pour amasser de la fortune tant qu'il n'y a personne pour l'arrêter.
Dans ce cas, pourquoi dépeindre Béarn comme un traître et Kaitrikhen comme une étrangère? Pourquoi faire circuler des rumeurs qui ridiculisent Vérité et son entreprise?
Par jalousie. Royal a toujours été le préféré de son père, qui l'a gâté. Je ne pense pas qu'il trahirait Subtil.
Au ton d'Humbre, je compris qu'il souhaitait éperdument que ce fût la vérité.
C'est moi qui fournis les herbes que Murfès administre à Subtil pour apaiser ses souffrances.
Je ne me méfie pas de vos herbes, mais je crois qu'on y ajoute quelque autre.
Dans quel but? Même si Subtil meurt, Vérité reste l'héritier.
Sauf s'il meurt à son tour. Je levai la main pour faire taire Humbre, qui s'apprêtait à protester.
Il n'est pas nécessaire qu'il meure réellement.
Si Royal a le clan à sa botte, il peut annoncer la mort de Vérité quand il le souhaite. Alors il devient roi servant, Et ensuite, je laissai ma phrase en suspens.
Imbre poussa un long soupir. Assez. Tu m'as fourni suffisamment matière à réflexion. Et je vais étudier tes théories à l'aide des moyens dont je dispose. Pour l'instant, tu dois prendre garde à toi, ainsi qu'à Ketriken et aux fous. S'il y a la moindre ombre de vérité dans tes spéculations, vous constituez tous les trois des obstacles sur le chemin de Royal.
Et vous? Demandai-je à mi-voix. À quoi riment ces nouvelles précautions qu'il faut prendre chez vous?
Il existe une chambre contiguë à celle où nous nous trouvons. Jusqu'à présent, elle était toujours restée inoccupée, mais aujourd'hui, un invité y couche. Brillant, un cousin de Royal et héritier du duché de Bourges. Il a le sommeil léger et s'est plaint récemment aux serviteurs d'entendre des rats couiner dans les murs. Et puis, la nuit dernière, Rodeur a fait tomber une bouilloire. Tu imagines le bruit, ça l'a réveillé. Et ce bougre est curieux par-dessus le marché. Depuis, il ne cesse de demander aux serviteurs si l'on a déjà vu des esprits errer dans le château, et je l'ai entendu taper au mur pour les tester. Je pense qu'il soupçonne l'existence de mes appartements. Cela ne doit pas nous inquiéter outre mesure, puisqu'il ne va sûrement guère tarder à rentrer chez lui. Mais il est nécessaire de se montrer un peu plus prudent que d'habitude.
J'eus l'impression qu'il ne me disait pas tout. Mais ce n'était pas en posant des questions que je lui tirerais les vers du nez. J'en posais cependant encore une.
Imbre, vous est-il encore possible de voir le roi une fois par jour?
Il regarda ses mains et fit lentement non de la tête.
Royal semble se douter de mon existence, je te l'avoue entre nous. Du moins, il se doute de quelque chose, et ses partisans rôdent partout, ce qui ne me facilite pas la vie. Mais assez parlé de nos soucis. Essayons de réfléchir à la façon d'améliorer la situation.
Et là-dessus, Imbre se lança dans une longue discussion sur les anciens, fondée sur le peu que nous savions d'eux. Nous imaginâmes que Vérité réussissait dans sa quête et spéculâmes sur la forme que prendrait l'aide des anciens. Imbre paraissait plein d'espoir et de sincérité, voire d'enthousiasme. J'essayais de partager ses sentiments, mais je restais convaincu que pour sauver les six duchés, il fallait éliminer la vipère que nous réchauffions en notre sein. Il ne tarda pas à me renvoyer dans ma chambre, où je m'allongeais sur mon lit dans l'intention de me reposer quelques minutes avant d'entamer la journée. Au lieu de cela, je sombrais dans un profond sommeil. Pendant quelque temps, nous eûmes la chance de subir tempête sur tempête. Chaque jour où je m'éveillais au son des rafales du vent et de la pluie contre mes volets était un jour béni. Je m'efforçais de me faire le plus discret possible dans le château. J'évitais Royal, même si je devais pour cela prendre tous mes repas dans la salle de garde, et je m'éclipsais dès que Justin et Sereine apparaissaient dans la même pièce que moi. Guillot, lui aussi, était rentré de son affectation d'artiseur à la Tour Rouge en Béarn. En de rares occasions, je l'apercevais en compagnie de Sereine et Justin. Mais le plus souvent, il traînait à table dans la grande salle, ses lourdes paupières donnant toujours l'impression d'être sur le point de se fermer. Son aversion envers moi était sans comparaison avec la haine que Sereine et Justin concentraient sur moi. Mais je préférais ne pas l'approcher non plus. Je voulais y voir une mesure de sagesse, mais je me soupçonnais au fond d'agir lâchement. Je rendais visite au roi chaque fois qu'on m'y autorisait, ce qui n'était pas assez fréquent. Un matin, je fus brutalement réveillé par des coups à ma porte et mon nom braillé à tue-tête. D'un pas mal assuré, j'allais ouvrir lui. Un garçon d'écurie blanc comme un linge tremblait sur mon seuil.
« Pogne veut que vous veniez tout de suite aux écuries !»
Et sans me laisser le temps de répondre, il s'enfuit comme s'il avait sept engeances de démons à ses trousses. J'enfilai mes vêtements de la veille. Quand je songeais à me débarbouiller et à refaire ma queue de cheval, j'étais déjà presque en bas de l'escalier. Comme je traversais la cour au pas de course, je perçus des éclats de voix dans les écuries. Je savais que Pogne ne m'aurait pas fait appeler pour une simple dispute entre lades. Mais alors, pour quelle autre raison? Je poussai les portes,
puis me frayai un chemin au milieu d'un agglutinement de garçons d'écurie et de palefreniers vers l'origine du remue-ménage. J'y trouvai Burick. Épuisé par son voyage, il avait cessé de hurler et se tenait à présent muet. Pogne était devant lui, pâle, mais résolu. « Je n'avais pas le choix, » fit-il d'une voix calme. « Vous auriez été obligé de faire la même chose. » Burick paraissait ravagé. Son regard vidé par le choc n'exprimait que de l'incrédulité.
« Je sais, » dit-il au bout d'un moment. « Je sais. »
Il se tourna vers moi.
« Fitz, on m'a pris mes chevaux. »
Il vacilla légèrement. « Ce n'est pas la faute de Pogne, » répondis-je. Puis, « Où est le prince Vérité ?» Son front se plissa, et il me lança un coup d'œil bizarre.
« Vous ne m'attendiez pas ?»
Il se tut, puis plus fort. « On m'avait envoyé des messages pour vous prévenir.
Vous ne les avez pas reçus ?»
Nous n'étions au courant de rien. « Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu revenu ?» Il regarda les garçons d'écurie qui contemplaient la scène bouche bée, et je retrouvais dans son œil une expression familière.
Si vous n'êtes au courant de rien, c'est que ce n'est pas un sujet de ragot, ni de commérage. Je dois aller voir le roi tout de suite.
Il se redressa, posa de nouveau les yeux sur les lades et les palefreniers, et c'est du ton cinglant que je lui connaissais bien qu'il demanda.
Vous n'avez rien à faire. Dès mon retour du château, je viendrai voir comment vous vous êtes occupé des écuries en mon absence.
Les garçons d'écurie disparurent comme brume au soleil, et Burick se tourna vers Pogne.
Peux-tu prendre soin de mon cheval? Ce pauvre Rousseau a souffert ces derniers jours. Traite-le bien maintenant qu'il est à la maison.
Pogne acquiesça. Bien sûr. Vous voulez que je fasse chercher le guérisseur pour qu'il soit là quand vous reviendrez?
Burick secoua la tête. Je peux m'en occuper seul. Allons, Fitz, donne-moi ton bras.
N'en croyant pas mes oreilles, j'obéis néanmoins, et Burick s'appuya lourdement sur moi. Je pensais alors à regarder ses jambes. Ce que j'avais pris pour d'épaisses jambières pour l'hiver était en réalité un pansement qui enveloppait sa mauvaise jambe. Il déplaçait son poids sur moi pour l'aménager, et je le sentais, tremblant de fatigue. Je percevais aussi de près l'odeur de transpiration que provoque la douleur. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses mains et son visage couverts de boue. Et cela ne ressemblait pas du tout à l'homme que je connaissais. « S'il te plaît, » dis-je à mi-voix, tout en l'aidant à marcher en direction du château, « est-ce que Vérité va bien ?» Il me fit une ombre de sourire.
« Notre prince serait mort, et je serais toujours vivant. Tu m'insultes, et serre-toi de ta tête. S'il était mort ou blessé, tu le saurais. »
Il s'arrêta de marcher pour me dévisager.
« Non. »
Je compris de quoi il parlait. Notre lien n'est pas fiable, avouai-je, honteux. Certaines choses sont claires, d'autres non. Je ne savais rien de ce qui vous est arrivé. Que s'est-il passé? Il prit l'air songeur.
Vérité a dit qu'il essaierait d'avertir le roi à travers toi. Si tu n'as rien transmis à Subtil, c'est à lui que je dois apprendre ce qui s'est produit.
Je n'insistai pas. J'avais oublié que Burick n'avait pas vu le roi Subtil depuis longtemps. Le matin, le roi n'était pas au mieux, mais, quand j'en avertis Burick, il me répondit préférer lui faire son rapport à un mauvais moment plutôt que repousser sa visite à plus tard. Nous frappâmes donc à la porte, et à ma grande surprise, on nous fit entrer. Une fois à l'intérieur, je compris que c'était à cause de l'absence de Murfès. En revanche, le fou m'accueillit en me demandant gracieusement «
Tu reviens respirer encore un peu de fumée ?»
Soudain, il aperçut Burick et son sourire moqueur s'effaça. Il croisa mon regard.
« Le prince ?»
Burick est venu faire son rapport au roi.
« Je vais essayer de le réveiller, bien qu'étant donné son état ces derniers temps, on puisse aussi bien s'adresser à lui éveillé qu'endormi. Il accorde autant d'attention à ce qu'on dit dans l'un et l'autre cas. »
J'avais beau être habitué aux railleries du fou, celle-ci m'ébranla. Le sarcasme sonnait mal car on y sentait trop de résignation. Burick me regarda d'un air inquiet et murmura «
Qu'a donc mon roi ?
De la tête, je lui fis signe de garder le silence, puis je l'invitai à prendre un siège.
« Devant mon roi, je reste debout tant qu'il ne m'ordonne pas de m'asseoir, »
répondit-il avec raideur. « Tu es blessé, il comprendrait. »«
C'est mon roi, c'est ça que je comprends. »
Je renonçai. Nous attendîmes un moment, et plus qu'un moment. Enfin, le fou ressortit.
« Il n'est pas bien, » nous prévint-il. Il m'a fallu du temps pour lui faire comprendre qui venait le voir, mais il dit vouloir entendre votre rapport dans sa chambre.
Burick s'appuya donc à nouveau sur moi, et nous pénétrâmes dans la pénombre enfumée de la chambre à coucher du roi. Je vis Burick plisser le nez avec dégoût. L'air était lourd et âcre de fumée, et plusieurs petits brûloirs rougeoyaient. Le fou avait ouvert les rideaux du lit, et comme nous nous arrêtions au chevet, il s'affaira à tapoter et à redresser coussins et oreillers dans le dos du roi, jusqu'à ce que celui-ci, d'un petit signe de la main, lui fasse signe de s'écarter. J'observais notre souverain et m'étonnais de n'avoir pas su repérer les marques de sa maladie. Elles étaient pourtant parfaitement visibles. L'affaiblissement général, l'odeur rance de la transpiration, le jaune dans le blanc des yeux, tout cela, j'aurais dû le noter. L'air bouleversé de Burick me révéla que le changement depuis la dernière fois qu'il l'avait vu était immense. Mais il se reprit rapidement et se redressa.
« Mon roi, je viens rendre compte, »
dit-il d'un ton solennel. Subtil cligna lentement les yeux.
« Viens rendre compte, »
fit-il d'un ton vague, et je ne pus déterminer s'il donnait un ordre à Burick ou s'il répétait simplement ses derniers mots. Burick, lui, y obéit comme à un ordre. Il fit son récit avec la même précision et la même minutie qu'il exigeait de ma part. Appuyé sur mon épaule, il raconta son phare son voyage aux côtés du prince Vérité, au milieu des tempêtes hivernales, en direction du royaume des montagnes. Le trajet avait été parsemé d'embûches. Malgré les messages envoyés à l'avance prévenir du passage de Vérité, il n'avait guère reçu aide ni hospitalité. Les nobles, dont les terres bordaient leur route, prétendaient n'avoir rien su de la venue du prince. Et dans bien des cas, le roi servant n'avait trouvé que des serviteurs pour l'accueillir et l'hébergement qu'on aurait fourni à un voyageur ordinaire. Les vivres et les chevaux qui auraient dû l'attendre en des lieux prévus à l'avance n'étaient pas là. Les montures avaient souffert plus durement que les hommes, et le temps avait été affreux. Tandis que Burick parlait, je le sentais parfois parcouru d'un tremblement. Il était au bord de l'épuisement complet. Mais chaque fois, il se reprenait, inspirait profondément, et poursuivait son récit. Sa voix s'érailla légèrement lorsqu'il narra l'embuscade dans laquelle ils étaient tombés sur les plaines de Bauges avant d'arriver en vue du lac Bleu. Sans tirer la moindre conclusion, il se contenta d'observer que les bandits se battaient comme des militaires. Ils n'arboraient les couleurs d'aucun duc, mais ils semblaient bien vêtus et bien armés pour des brigands. Et Vérité était manifestement leur cible. Quand deux des animaux de bas brisèrent leurs attaches et se sauvèrent, pas un seul des assaillants ne rompit le combat pour les poursuivre. Des bandits auraient normalement préféré se lancer sur les traces de bêtes chargées à se battre contre des hommes armés. Les gardes de Vérité avaient fini par trouver une position de défense et les avaient repoussés avec succès. Les attaquants avaient renoncé en comprenant que la garde de Vérité mourrait plutôt que de se rendre ou de céder, et ils s'étaient enfuis en abandonnant leurs morts dans la neige.
Ils ne nous avaient pas vaincus, mais... nous n'étions pas indemnes. Nous avions perdu une bonne partie de nos vivres. 7 hommes et 9 chevaux étaient morts. 2 d'entre nous étaient gravement blessés, et 3 autres plus légèrement. Le prince Vérité a décidé alors de renvoyer les blessés à Castelserre, et il nous a fait accompagner de 2 hommes valides. Il avait l'intention de continuer sa route, d'emmener sa garde jusqu'au royaume des montagnes, où elle attendrait son retour. Il a placé Persan à la tête du groupe qui s'en retournait et lui a confié des renseignements écrits. J'ignore quels ils étaient. Persan et les autres se sont fait tuer il y a 5 jours. Nous sommes tombés dans une embuscade juste avant la frontière de notre duché, alors que nous suivions la serre. C'était des archers. Ça a été très rapide. 4 d'entre nous sont morts sur le coup, et mon cheval a été touché au flanc. Rousseau est jeune, il s'est affolé et il a sauté par-dessus un talus jusque dans le fleuve en m'emportant avec lui. L'eau est profonde à cet endroit et le courant puissant, Je me suis accroché à Rousseau, mais nous avons été entraînés. J'ai entendu Persan crier aux autres de se sauver, qu'il fallait que certains parviennent à Castelserre. Mais aucun n'y est arrivé. Quand Rousseau et moi avons enfin pu nous sortir de la serre, nous avons fait demi-tour, et j'ai trouvé les corps. Les documents que transportait Persan avaient disparu. Bien droit, il parlait d'une voix claire avec des mots simples. Son rapport était une simple description de ce qui s'était passé. Il ne dit rien de ce qu'il avait ressenti à être renvoyé au château ou à être le seul survivant de son groupe. Il allait sans doute s'enivrer ce soir, et je me demandais s'il désirerait de la compagnie. Mais pour l'instant, muet, il attendait les questions de son roi. Comme le silence s'éternisait, il risqua un « Mon roi ?» La forme de Subtil s'agita dans les ombres de son lit.
« Cela me rappelle mon jeune temps, » fit-il d'une voix rauque. « À une époque, j'étais capable de manier l'épée montée sur un cheval. Quand on perd cela, enfin, une fois que cela n'est plus, on a perdu bien davantage. Mais ton cheval a survécu ?»
Luric plissa le front. « J'ai fait ce que j'ai pu pour lui, mon roi. Il n'en gardera pas de séquelles. »
« Ah, eh bien, c'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque chose. »
Le roi se tut. Un instant, le bruit de sa respiration emplit la pièce. Elle paraissait laborieuse.
« Va te reposer, mon brave, » reprit-il enfin d'un ton bourru. « Tu as l'air exténué, peut-être. »
Il s'interrompit à nouveau, inspira deux fois.
« Je te rappellerai plus tard, quand tu seras reposé. Il y a sûrement des questions à poser. »
Sa voix mourut, et nous l'entendîmes encore respirer à grande goulée, comme on fait lorsque la souffrance est presque insupportable. Je me remémorais ce que j'avais éprouvé l'autre nuit à ses côtés, et je tentais de m'imaginer en train d'écouter Burick tout en endurant un tel supplice et en m'efforçant de ne pas le montrer. Le fou se pencha sur le visage du roi, puis nous regarda et secoua imperceptiblement la tête. « Bien, » murmurai-je à Burick, « ton roi t'a donné un ordre. » Comme nous quittions la chambre du roi, j'eus l'impression qu'il s'appuyait plus lourdement sur moi.
« On aurait dit qu'il n'écoutait pas, »
me dit Burick d'un ton hésitant, alors que nous nous engagions lentement dans le couloir. « Si, il écoute. Crois-moi, il écoute attentivement. » Je m'arrêtai devant les escaliers. Descendre les marches, traverser la salle, les cuisines, la cour, arriver dans les écuries, et enfin grimper le raide escalier qui menait chez Burick, ou monter deux volées de marches, suivre le couloir et entrer dans ma chambre. « Je t'emmène chez moi, » déclarai-je.
« Non, je veux rentrer chez moi. »
On aurait dit un enfant que la maladie rend grincheux. « Plus tard, quand tu auras pris du repos, » répliquai-je d'un ton ferme. Je l'entraînai dans l'escalier, et il me suivit sans résister. Il n'en avait sans doute plus la force. Il s'adossa au mur pendant que je déverrouillais ma porte, puis je l'aidai à entrer. J'aurais voulu qu'il s'allonge, mais il insista pour s'asseoir sur le fauteuil près du feu. Et, une fois installé, il appuya sa tête contre le dossier et ferma les yeux. Ses traits se détendirent et toutes les privations qu'il avait endurées apparurent sur son visage. Les os pointaient sous la peau et il avait un teint effrayant. Il redressa la tête et promena son regard sur ma chambre comme si c'était la première fois qu'il la voyait.
« Fitz, tu as quelque chose à boire ici ?»
Je savais que ce n'était pas de thé qu'il parlait. De l'eau de vie?
Cet extrait de mûr à 3 sous que tu bois d'habitude, je préférerais encore avaler du liniment pour les chevaux.
Je me tournai vers lui en souriant. Ça, j'en ai peut-être. Il ne réagit pas, comme s'il ne m'avait pas entendu. Je fis du feu, puis fouillai rapidement parmi la petite réserve d'herbe que je gardais chez moi. Il n'en restait plus guère,
car j'en avais donné la plus grande partie au fou. Burik, je vais aller te chercher à manger, plus quelques affaires, d'accord ? Pas de réponse. Il s'était assoupi dans le fauteuil et dormait à poing fermé. Je n'eus même pas besoin de toucher son visage pour savoir qu'il brûlait de fièvre, et je me demandais ce qui était arrivé à sa jambe cette fois-ci. Une nouvelle blessure sur une ancienne, suivie d'un long trajet. Il n'était pas prêt de guérir, c'était évident. Je sortis rapidement. Aux cuisines, j'interrompis Sarah dans la confection d'un gâteau pour lui apprendre que Burik était blessé, malade, et qu'il se trouvait dans ma chambre. Je mentis et lui dis qu'il avait une faim de loup, et que je lui serais reconnaissant d'envoyer quelqu'un lui apporter de quoi manger, ainsi que quelques seaux d'eau chaude. Aussitôt, elle se fit remplacer pour le pétrissage de la pâte et se mit à sortir à grand bruit plateaux, théières et couverts. J'allais sans tarder avoir de quoi organiser un petit banquet. Je courus jusqu'aux écuries avertir Pogne que Burik était chez moi et qu'il y resterait quelque temps. Puis je me rendis dans la chambre de Burik afin d'y prendre les herbes et les racines dont j'aurais besoin. J'ouvris la porte. La pièce était glacée et humide et sentait le moisi. Je pris note d'y dépêcher quelqu'un pour y allumer du feu et y apporter du bois, de l'eau et des bougies. Burik pensait être absent tout l'hiver et, fidèle à lui-même, avait rangé sa chambre jusqu'à la rendre austère. Je trouvais quelques pots d'onguents, mais aucune réserve d'herbes séchées. Soit il les avait emportées en partant, soit il les avait données avant son départ. Au milieu de la pièce, je regardais ce qui m'entourait. Il y avait des mois que je n'étais plus monté, et les souvenirs d'enfance affluèrent à mon esprit. Les heures passées devant la cheminée à réparer ou à huiler des harnais, le matelas sur lequel je dormais devant l'âtre, Fouino. Le premier chien avec lequel j'avais partagé le lien du vif et que Burik avait fait disparaître dans l'espoir de me dégoûter de cette magie. Je secouai la tête sous la crue d'émotions conflictuelles qui me submergeait et sortis en hâte. La porte à laquelle je frappai ensuite était celle de Patience. Ce fut Brodette qui m'ouvrit. Voyant mon expression, elle me demanda aussitôt « Que se passe-t-il ? » Burik est revenu. Il est chez moi. Il est gravement blessé et je n'ai pas grand-chose comme herbe pour le traiter. « Avez-vous envoyé chercher le guérisseur ?» J'hésitais. Burik préfère toujours faire les choses à sa façon. « En effet !» C'était Patience qui venait d'apparaître dans le salon. « Que s'est encore fait ce fou ? Le prince Vérité va-t-il bien ?» Le prince et sa garde se sont fait attaquer, mais il n'a pas été touché. Il a continué vers les montagnes et il a renvoyé les blessés avec deux hommes valides pour les escorter. Burik est le seul qui soit arrivé à Castelser. Le trajet du retour était donc si difficile ? Demanda Patience. Brodette était déjà occupée à réunir des herbes, des racines et des pansements. Le temps était froid et traître, et l'hospitalité maigre le long de leur route. Mais les hommes sont morts sous les flèches d'archers embusqués juste avant la frontière de Serre. Burik a été entraîné dans le fleuve par son cheval et le courant les a emportés. C'est sans doute grâce à cela qu'il a eu la vie sauve. Où a-t-il été touché ? Patience s'activait à son tour, tout en m'écoutant. Elle ouvrit un petit buffet et en sortit toutes sortes de baumes et de teintures. À la jambe, toujours la même. Mais je n'en connais pas la gravité. Je n'ai pas encore regardé. En tout cas, elle ne le porte plus. Il ne peut plus marcher seul et il a de la fièvre. Patience se munit d'un panier et se mit à y entasser ses produits médicinaux. « Eh bien, que fais-tu là, les bras ballants ?» me jeta-t-elle. « Retourne dans ta chambre, voir ce que tu peux faire pour lui. Nous allons t'y rejoindre. » Je décidai de ne pas prendre de gants. « Je ne pense pas qu'il acceptera de se laisser soigner par vous. » « Nous verrons, » répondit calmement Patience. « Maintenant, va voir si l'on a porté de l'eau chaude. » Les seaux que j'avais demandés attendaient devant ma porte. Le temps que l'eau commence à fumer dans ma bouilloire, ma chambre était devenue le point de convergence d'une petite foule. Mijotte fit monter deux plateaux de nourriture, du lait tiède et du thé brûlant. Patience arriva et entreprit d'étaler ses herbes sur mon coffre à vêtements. Puis elle envoya Brodette chercher une table et deux sièges supplémentaires. Burik continuait à dormir à point fermé dans mon fauteuil, en dépit des tremblements qui l'agitaient de temps en temps. avec une familiarité qui me laissa pantois. Patience posa sa main sur son front, puis lui palpa la gorge à la recherche d'éventuelles grosseurs. Puis elle s'accroupit légèrement pour le regarder.
« Pur !»
fit-elle à mi-voix, mais il n'eut pas un frémissement. Très doucement, elle lui caressa le visage.
« Vous êtes si maigre, si hâve !»
murmura-t-elle d'un ton compatissant. Elle trempa un morceau de tissu dans de l'eau tiède, puis lui lava le visage et les mains comme s'il s'agissait d'un enfant. Enfin, elle prit une couverture de mon lit et la lui plaça délicatement sur les épaules. Elle surprit mon expression ahurie et me foudroya du regard.
« Va me chercher une cuvette d'eau, dégourdi !»
jeta-t-elle sèchement. Comme j'obéissais, elle s'accroupit devant Burick, tira calmement ses ciseaux d'argent et découpa le pansement qui lui enveloppait la jambe jusqu'au-dessus du genou. D'après son état, il n'avait pas été changé depuis le plongeon dans le fleuve. Alors que Brodette me prenait la cuvette des mains et s'agenouillait à côté d'elle, Patience ouvrit le pansement souillé comme elle l'eût fait d'une coquille. Burick s'éveilla avec un gémissement et son menton retomba contre sa poitrine comme il ouvrait les yeux. L'espace d'un instant, il parut désorienté. Il me regarda qui me tenait debout auprès de lui. Puis il aperçut les deux femmes accroupies devant sa jambe.
« Quoi ? »
fit-il, incapable d'en dire davantage.
« C'est répugnant !»
déclara Patience. Elle le regarda comme s'il avait marché avec des bottes pleines de boue sur un sol propre.
« Pourquoi ne l'avez-vous pas nettoyé, au moins ?»
Burick baissa les yeux sur sa jambe. Du sang coagulé et du limon formaient une croûte sur la longue plaie enflée qui lui descendait du genou. Cette vision lui fit manifestement horreur, et quand il répondit à Patience, il avait la voix rauque et dure.
« Quand Rousseau m'a emporté dans le fleuve, j'ai tout perdu. Je n'avais plus ni bandage propre, ni vivre, ni rien. J'aurais pu découvrir la plaie, la laver, puis la laisser geler au vent. Croyez-vous qu'elle aurait été plus belle ?»«
Voici à manger, » intervins-je brusquement. Apparemment, le seul moyen d'empêcher ces deux-là de se disputer était d'empêcher qu'ils se parlent. Je poussai près de lui la petite table sur laquelle était posé un des plateaux de mijote, et Patience s'écarta pour me laisser passer. Je remplis une chope de lait tiède et la plaçai entre les mains de Burick, qui se mirent à trembler légèrement quand il porta le récipient à sa bouche. Je ne m'étais pas rendu compte de la faim qui le dévorait.
« N'avalez pas ça !»
s'exclama Patience. Brodette et moi lui lançâmes un regard d'avertissement, mais le repas semblait retenir toute l'attention de Burick. Il reposa la chope, s'empara d'un petit pain chaud sur lequel j'avais étalé du beurre et l'engloutit presque entièrement le temps que je lui reserve du lait. Je trouvais étrange qu'il ne se soit mis à trembler qu'une fois de quoi manger entre les mains. Comment avait-il fait pour tenir debout auparavant ?
« Qu'est-il arrivé à votre jambe ? »
demanda Brodette avec douceur. Puis,
« Attention !»
Et elle plaça un tissu dégoulinant d'eau chaude sur le genou. Il tressaillit, pâlit, mais ne poussa pas un gémissement. Enfin, il but une gorgée de lait.
« Une flèche !» dit-il finalement. « Il a fallu une guigne du tonnerre pour qu'elle m'atteigne justement là, à l'endroit où le sanglier m'accrochait il y a des années. En plus, elle s'est logée contre l'os. C'est vérité qui me l'a arraché. »
Il se laissa brusquement aller contre le dossier, comme si ce souvenir lui donnait la nausée.
« Juste sur la vieille blessure, » fit-il d'une voix faible. Et chaque fois que je pliais le genou, elle se rouvrait et elle se remettait à saigner.
« Vous n'auriez pas dû la bouger, » observa Patience d'un ton sentencieux. Burick, Brodette et moi la regardâmes comme si elle était folle.
« Ah, c'est vrai, ce ne devait pas être possible, » se reprit-elle.
« Voyons cette blessure, maintenant, »
intervint Brodette en s'apprêtant à retirer le tissu mouillé. Burick la repoussa d'un geste.
« Laissez, je m'en occuperai moi-même quand j'aurai mangé. »
« Quand vous aurez mangé, vous vous reposerez, » répliqua Patience. « Brodette, écarte-toi, s'il te plaît. »
À ma grande stupéfaction, Burick ne discuta pas. Brodette recula
et Dame Patience s'agenouilla devant le maître d'écurie. Avec une expression étrange, il l'observa pendant qu'elle soulevait le tissu. Elle en trempa un coin dans de l'eau propre, l'essora, puis nettoya la blessure avec habileté. Le tissu imbibé d'eau tiède avait détaché la croûte de sang. Une fois nettoyée, la plaie n'était plus aussi laide qu'au premier abord. Cela n'en demeurait pas moins une mauvaise blessure, et les privations qu'avait connues Burick compliqueraient la guérison. La chair béait et de nouveaux tissus avaient bourgeonné là où elle aurait dû se refermer. Pourtant, chacun se détendit à mesure que la plaie apparaissait plus nettement. Elle était enflammée, tuméfiée, infectée à un endroit, mais il n'y avait ni putréfaction, ni noircissement. Patience l'examina un instant. « Qu'en dites-vous ? » demanda-t-elle sans s'adresser à personne en particulier. « De la racine de gourdin du diable ? En cataplasme chaud ? En avons-nous, Brodette ? Un peu, madame. » L'intéressé se pencha sur le panier qu'elles avaient apporté et se mit à enfouiller le contenu. Burick se tourna vers moi.
« Ces récipients viennent de ma chambre. »
J'acquiesçai, et il hocha la tête.
« C'est bien ce qu'il me semblait. Apporte-moi le petit pot ventru, le marron. »
Il me le prit des mains et ôta le couvercle.
« Ça, j'en avais en partant de Castelserre, mais les animaux de bas l'ont emporté en s'enfuyant lors de la première embuscade. »«
Qu'est-ce que c'est ?» demanda Patience. Elle s'approcha curieuse, la racine de gourdin du diable dans la main.
« Du mouron des oiseaux et des feuilles de plantain infusées dans de l'huile, puis broyées et mélangées à de la cire d'abeille. »
« Ça devrait être efficace, » concéda Patience, « après le cataplasme. » Je m'attendais à une réplique cinglante, mais Burick se contenta de hocher la tête. Il avait l'air soudain épuisé. Il se laissa aller contre le dos du fauteuil, s'emmitoufla dans la couverture, et ses yeux se fermèrent. On frappa. J'allais ouvrir et me trouvais devant Kétriken, accompagnée de Romarin. « Une de mes suivantes m'a dit que Burick serait rentré, » dit-elle. Puis, elle observa ma chambre. « C'est donc vrai ? » ?»« Et il est blessé ?»« Comment va, monseigneur ?»« Oh, comment va Vérité ?» Son visage devint soudain plus pâle que je ne l'aurais cru possible. Je la rassurai. « Il va bien, entrez. » En même temps, je me fustigeais de mon inconséquence. J'aurais dû la prévenir immédiatement du retour de Burick et des nouvelles qu'il apportait, car personne d'autre ne l'avertirait. À son apparition dans la chambre, Patience et Brodette se détournèrent brièvement de la racine qu'elles étuvaient pour l'accueillir avec une rapide révérence et quelques mots de bienvenue. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Kétriken d'une voix tendue, et je lui répétai aussitôt tout ce que Burick avait dit au roi, car il me semblait qu'elle avait autant droit à savoir ce qu'il advenait de son époux que Subtil de son fils. Elle blêmit encore quand je parlais de l'attaque contre Vérité, mais ne dit rien tant que je n'eus pas fini. Grâce en soit rendue à tous nos dieux. Il approche de mes montagnes. Là, il ne risquera plus rien, de la part des hommes en tout cas. Là-dessus, elle se dirigea vers Patience et Brodette qui préparaient la racine, à présent suffisamment amollie pour être malléable. Elle la laissait refroidir avant de l'appliquer sur l'infection. La baie de sorbier fait une excellente lotion pour ce genre de blessure, observa Kétriken. Patience leva les yeux vers elle d'un air timide. Je l'ai entendu dire, mais cette racine tiède va attirer l'infection hors de la plaie. Pour des tissus bourgeonnants comme nous en avons ici, on peut aussi employer la feuille de framboisier et l'orme rouge comme lotion ou comme cataplasme. Nous n'avons plus de feuilles de framboisier, lui rappela Brodette. L'humidité s'y est mise et elles ont moisi. Moi j'en ai, s'il vous en faut, intervint Kétriken à mi-voix. J'en avais préparé pour le thé du matin. C'est un remède que je tiens de ma tante. Elle baissa les yeux et un curieux sourire lui étira les lèvres.
Ah ?
Fit Brodette, soudain intéressée.
Oh, madame !
S'exclama Patience. Elle prit la main de Kétriken avec une soudaine et singulière familiarité.
« Vous en êtes sûr ?»«
Oui. Au début, j'ai cru que ce n'était que... Mais ensuite, d'autres signes sont apparus. Certains matins, même l'odeur de la mer me rend malade, et j'ai sans cesse envie de dormir.
« Mais il faut dormir !»
fit Brodette en éclatant de rire. «
Quant aux nausées, elles passent après les premiers mois. »
Je restais dans mon coin, étranger, exclu, oublié.
Les trois femmes se mirent tout à coup à rire à l'unisson.
« Rien d'étonnant à ce que vous soyez impatiente d'avoir des nouvelles de lui. Était-il au courant avant de partir ?»«
Je ne soupçonnais rien moi-même à cette époque. Si vous saviez comme j'ai envie de lui dire, de voir sa tête. »«
Vous attendez un enfant ?» dis-je bêtement. Elles se tournèrent vers moi, puis elles se mirent à rire de plus belle.
« C'est encore un secret, » m'avertit Ketriken. « Je ne veux pas de rumeur avant que le roi soit au courant, et je veux lui apprendre personnellement la nouvelle. »
« Naturellement, » répondis-je, sans lui révéler que le fou n'ignorait rien de son état, et depuis plusieurs jours déjà.
L'enfant de vérité, songeais-je. Un étrange frisson me parcourut.
L'embranchement du chemin qu'avait vu le fou, la soudaine multiplication des possibilités. Un élément émergeait au-dessus de tous les autres. Le brutal déplacement de Royal, repoussé un cran plus loin du trône, par une nouvelle petite vie qui venait s'interposer entre lui et le pouvoir auquel il aspirait. Elle ne pèserait pas bien lourd à ses yeux.
« Naturellement, » répétai-je d'un ton plus enjoué, « il vaut mieux garder la nouvelle tout à fait secrète.
Car une fois qu'elle serait rendue publique, Ketriken ne serait pas plus en sécurité que son époux. »